Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Eh bien, nous continuons notre réflexion sur la culture générale que je fais à partir de mon livre « Comprendre la culture générale » paru chez l'éditeur Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années et toujours disponible en librairie. Alors, où en sommes-nous ? Eh bien, nous en sommes au chapitre 7 de cet ouvrage. Ce chapitre s'intitule « Désymbolisation et unidimensionnalité ». Alors, ce mot « unidimensionnalité » peut être difficile à comprendre. Eh bien, nous allons voir en quoi la désublimation génère précisément l'unidimensionnalité. Alors, que signifie désublimation ? Eh bien, c'est le contraire de la sublimation. Pour comprendre ce qu'est la sublimation des pulsions, des instincts, qui est propre aux époques de haute culture, on peut distinguer, par exemple, d'après l'analyse de Marcuse dans L'homme unidimensionnel, Eros et sexualité. Ce n'est pas la même chose de faire l'amour, par exemple, dans un pré et dans une voiture automobile, ou bien de flirter dans les rues d'une vieille ville chargée d'histoire et de souvenirs, et dans un environnement urbain moderne, froid et amnésique. Tandis que la sexualité, c'est-à-dire la libido, au sens freudien, limite l'élan à la seule fonction génésique, Eros, au contraire, où le désir implique l'être tout entier et tout est érotisé. Les fleurs, le pré, la nature, les vieilles maisons, etc. élargissent l'amour. L'imagination et l'élargissement de la pulsion à tout un environnement définissent précisément la sublimation. Et c'est là-dessus que s'appuient les cultures. Lorsque cette sublimation disparaît, alors arrive la désublimation qui va générer, comme je l'ai dit en commençant, l'unidimensionnalité de l'homme. Lorsque l'on désublime, Eros disparaît et seule demeure la sexualité. Elle peut certes se renforcer, augmenter en intensité, mais l'âme elle-même va disparaître. Et l'élan vital qui concerne tout l'être, et pas seulement une partie de l'être, va diminuer. Politiquement et socialement, Eros, toujours comme le dit Marcuse, est subversif. Pourquoi ? Parce qu'il focalise toutes les ressources et l'attente de l'être. Eros ne permet plus à l'homme d'être disponible pour le jeu social, pour la rentabilité sociale. L'homme n'est plus un agent économique qui est bien inséré dans le modèle ou le moule commun. Eros met en péril la vie sociale par le ferment d'anarchie qu'il introduit, car la vie sociale demande la stabilité des individus. Eros, au contraire, les rend instables, mécontents, insatisfaits, anomiques, au sens de Durkheim, du sociologue Durkheim, c'est-à-dire celui qui ne se conforme pas à la nomos, à la loi sociale, vous voyez. Et Eros est dangereux pour cette raison, car il est à la source des passions, et toujours les passions défient la société dans son ensemble. Denis de Rougemont l'a montré dans un livre qui s'appelle « L'amour et l'Occident », et aussi le sociologue Jean Duvigneau dans un livre intitulé « La jeunesse des passions dans la vie sociale ». Alors, un pouvoir totalitaire va tolérer ou même favoriser la licence sexuelle, mais il n'aime pas les passions qui sont individuelles et qui sont exclusives. L'homme s'exalte dans la passion, son énergie est galvanisée et alors il peut résister à l'influence du pouvoir. Tandis que dans la satisfaction immédiate de toutes les pulsions, l'homme va perdre très vite le peu d'énergie ou d'élan vital qu'il a. On peut se représenter par exemple de l'eau qui serait sous pression dans un tuyau. Si l'on perce le tuyau une fois, le jet d'eau est très intense. Mais si on le perce 20 fois, il y a 20 petits jets d'eau mesquins. De la même façon, celui qui s'exalte sur un seul objet où il va focaliser sa passion va déborder d'élan. L'amoureux pour l'objet de sa passion, la mère pour son enfant, le croyant pour son Dieu, etc. Ceux-là sont instables et dangereux pour l'ordre social, car, pour reprendre la métaphore, le jet d'eau va gicler bien haut. Mais celui qui va disperser son énergie vitale sur un grand nombre d'objets, celui-là ne s'attache à rien profondément. Il va ressentir les choses très légèrement et il sera très stable politiquement et socialement. La fontaine, toujours avec ma métaphore, ne va produire que des petits jets dérisoires, vous voyez. Et dans Le meilleur des mondes d'Huxley, autre livre important, au même titre que L'homme unidimensionnel de Marcuse, dans ce livre Le meilleur des mondes, chacun se considère, selon les injonctions du pouvoir totalitaire, comme un tas de viande ou un paquet d'instincts. L'éducation collective est un conditionnement par suggestion dans le sommeil, que Huxley appelle l'hypnopédie, la pédagogie par le sommeil. Et dans ces phases de sommeil, on va dire à chacun qu'il appartient à tous les autres. Alors les mères ne peuvent plus polariser leur amour sur leur enfant, puisque les enfants sont élevés collectivement. Mère, monogamie, romanesque n'existe plus. Les couples se font et se défont. On est échangiste, décomplexé. Même chose pour l'instinct religieux. Autrefois, on disait « mon péché, mon Dieu terrible », etc. Toutes les exaltations déraisonnables du croyant ancien n'ont désormais plus de sens. L'angoisse d'autrefois empêchait les hommes qui s'exaltaient en solitude de ressentir les choses légèrement, dont d'être heureux et satisfait. Mais les modernes, enfin, sont heureux. C'est exactement ce que dit Zarathoustra à propos du dernier homme. Dans un texte de Nietzsche que j'ai lu lors d'une émission précédente, « Autrefois, tout le monde était fou, dit le dernier homme, et il cligne de l'œil. » Vous voyez, on ricane sur ses anciennes illusions, sur ses anciennes passions exclusives. Alors comment un individu dont l'énergie est canalisée ou fixée de façon exclusive sur un objet pourrait-il, comme le dit Huxley, faire marcher les rouages de la machine sociale ? Pour ce faire, on a besoin non pas d'hommes exaltés et résistants, mais d'être satisfaits, stables, soumis. On voit aussi dans 1984 d'Orwell que l'amour éprouvé par le héros lui donne la possibilité de résister au pouvoir totalitaire, à ce fameux Big Brother qui regarde tout le monde. Big Brother is watching you, il vous regarde. À la fin du film qui a été tiré de ce livre, on ne sait pas si le « je l'aime » du héros, que l'on torture pour le rendre conforme, s'adresse à Big Brother ou bien à la femme aimée. Cette fin est admirable et symbolique, car la passion amoureuse et les sublimations dont elle s'accompagne permettent de résister au totalitarisme. Alors vous voyez que les trois livres, d'Huxley, L'homme unidimensionnel, Le meilleur des mondes, de Marcuse, L'homme unidimensionnel, pardon, Le meilleur des mondes d'Huxley et 1984 d'Orwell, sont des livres justement qui nous montrent la décadence où parvient notre société lorsque les hommes ont désublimé tout leur monde affectif. Les deux derniers, Le meilleur des mondes et 1984 sont des dystopies, c'est-à-dire des utopies négatives, le contraire de l'utopie positive, vous voyez. Je pense aussi au film de Chaplin, Les temps modernes. Ce film nous montre que le monde moderne n'a que faire de la fantaisie individuelle. En effet, il y a un rôle éminemment précieux de l'imaginaire qui est la subversion sociale. Et si un jour l'homme perd la capacité d'imaginer, la fantasia, comme on le dit en grec, ou la fantaisie constitutive de son être, il va perdre toute liberté. Et désormais, il ne peut plus que se soumettre au pouvoir. Vous voyez, le temps est venu où l'homme, devenu incapable, selon les termes de Zarathoustra de Nietzsche, de projeter son désir au-delà de lui-même, cet homme ne pourra plus rien opposer aux injonctions du pouvoir. Et cette leçon de résistance est la morale essentielle aussi du roman d'apprentissage de Michael Ende, E-N-D-E, Histoire sans fin. De ce roman a été tiré un très beau film, ainsi qu'une suite, vous voyez. Donc la fantasia, l'imaginaire, permet de résister au néant, c'est-à-dire au nihilisme fondamental, où se vautrent les hommes modernes en satisfaisant à chaque instant tout ce dont ils ont envie de façon immédiate. Alors, pour comprendre combien l'unidimensionnalité et la désymbolisation réduisent et amputent l'homme, il convient de voir ce qui distingue essentiellement en l'homme le désir. Donc, envisageons la psychologie du désir humain. Le désir n'est pas le besoin. L'homme, dit Bachelard dans la psychanalyse du feu, est le fils du désir et non du besoin. Le besoin est à la base des activités simplement ormiques, H-O-R-M-I-Q-U-E-S. Ce mot vient du grec « ormé » qui veut dire « élan instinctif vers quelque chose ». Le désir ajoute besoin d'autre chose. Il ajoute quoi ? L'attente, le rêve, l'imagination. Par exemple, si je vais à la boulangerie et que j'en ramène un pain tout chaud, eh bien, ce pain ne se contente pas d'assouvir ma faim. Quand je le touche ou quand je le sens, je le hume, je peux rêver sur la chaleur, sur le feu, sur le foyer. Il y a là tout un imaginaire potentiel qu'il n'y a plus dans le pain du supermarché, enveloppé de plastique. De la même façon qu'Eros, toujours pour reprendre le mot de Marcuse, n'est pas simplement la sexualité, de la même façon, manger n'est pas simplement se nourrir, s'alimenter. On pourrait s'alimenter simplement avec des pilules, de la chimie, vous voyez. Autre chose, l'électricité, en supprimant la pénombre des pièces, eh bien, on peut dire qu'elle est mortifère pour le désir et pour l'imaginaire, puisqu'elle met l'homme face à face avec les choses elles-mêmes, et elle a favorisé, dans le monde moderne, la désublimation. Car si l'homme a besoin effectivement de s'éclairer, il désire au contraire le rêve. Comme on dit, baisse un peu l'abat-jour, veux-tu, vous voyez. Alors le commutateur électrique chasse brutalement d'une pièce toutes les projections et tous les fantasmes que permettait la flamme dansant dans la cheminée ou bien la bougie. Il suffit de lire un livre essentiel, « La flamme d'une chandelle » de Bachelard, ou encore un autre livre essentiel, « L'éloge de l'ombre » de Tanizaki, pour voir que le progrès technique n'est pas forcément un bienfait psychologique. Et de la même façon, le désir vit de pénombre, d'opacité. Fondamentalement, il a une structure, je dirais, allégorique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il dit autre chose, en grec « allo agoroei », il dit autre chose que ce qu'il déclare explicitement et expressément. En effet, il faut voir ce qu'il y a derrière le langage. Par exemple, quand nous saluons quelqu'un et que nous parlons avec lui de la pluie et du beau temps, nous parlons d'autre chose que de la pluie et du beau temps. Nous désirons la chaleur d'un contact. C'est ce que Jacobson, le linguiste Jacobson, appelait la fonction phatique du langage. Le langage pour alimenter la conversation, par-delà même ce qui est dit. De la même façon, quand un enfant demande un bonbon, on peut dire qu'il désire autre chose qu'un bonbon. Il désire qu'on lui parle, qu'on s'occupe de lui. Et l'erreur alors est de lui donner le bonbon, ce qu'il demande, ou bien pire encore, de lui donner de l'argent pour qu'il s'achète des bonbons. en fait pour ne pas avoir à s'occuper de lui. Mélanie Klein, dans Envie et gratitude, et Françoise Dolto, dans Tout est langage, l'ont bien montré. Dans le désir d'une chose, il est question d'autre chose que de la chose désirée. Et même la publicité le sait, puisqu'elle est basée tout entière là-dessus. Elle vend non pas des réalités, mais bel et bien des rêves. Le besoin simple vise ce qui est, et le désir vise ce qui doit être. Le premier vise une réalité, et le second une vérité. Vérité de ce qui est désiré, et vérité de celui qui désire. Vérité d'un objet, vérité d'un être. Le désir est la source des valeurs. Valeur signifie ce qui est digne d'exister. C'est le désir qui est normatif et pas le besoin. Dans le désir, il est question de l'unité de notre être, de sa justification à être, en quelque sorte. On pourrait dire que la structure du désir est un désir de structure. Et au fond, c'est toujours le désir humain qui confère aux choses beauté et attrait. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, c'est parce que nous la désirons que nous disons qu'elle est bonne. Un homme ne rêve pas d'une femme parce qu'il la trouve mystérieuse. Il la décrète mystérieuse pour justifier son rêve d'elle, le rêve qu'il se fait à son propos. Tout se part de l'aura, aura, A-U-R-E-A, hein, de l'auréole, de l'aura propre à notre attente, à notre attente. Tout vient non pas des choses, mais de notre regard. En fait, nous ne désirerions peu de choses, hein, que peu de choses, si nous savions exactement ce qu'est ce que nous désirons. La beauté, disait Spinoza, n'est pas une qualité de l'objet considéré, mais un effet en celui qui considère cet objet. Et il ajoute, la plus belle main du monde, vue au microscope, apparaîtra horrible, vous voyez. Hein. Donc, c'est de nous que vient justement la valorisation. Et c'est nous qui conférons aux choses par nos désirs, non pas par nos besoins, les valeurs qu'elles ont à nos yeux. Alors, voyons maintenant les liens entre le désir et l'absence. Il y a un lien entre les deux. Il y a une importance essentielle de l'éloignement ou de l'absence de l'objet du désir, car cela est en relation avec la négativité, je dirais, fondamentale du désir. Je pense au film de Buñuel dont le titre est admirable, « Cet obscur objet du désir », vous voyez. Il y a une nécessité constitutive que cet objet reste obscur ou lointain. Donc il reste transcendant. Nous avons vu lors des émissions précédentes que la transcendance était essentielle pour que l'homme reste un homme. Hein, et c'est ce qui disparaît justement lorsque l'homme nie son âme ou ignore sa présence. Donc la proximité de l'objet du désir, c'est presque un principe de mort pour le désir, car les choses s'éloignent toujours pour mieux nous séduire, et la considération que nous leur donnons augmente avec la distance, comme on dit en latin « maior e longinquo reverentia », c'est-à-dire le respect augmente avec la distance. En général, Proust disait que rien ne nous fait mieux désirer une femme qu'une parole comme « Non, ce soir, je ne suis pas libre ». Vous voyez ? Et il me semble que les femmes feraient plus de cas de la pudeur et de la réserve si elles savaient dans quel mépris les hommes tiennent les femmes faciles. Vous voyez ? Alors, la psychologie de la passion nous apprend bien des choses à ce sujet sur le rapport entre désir et absence. Prenez par exemple la chaîne d'Andromaque de Racine, ce qu'on appelle la chaîne qui lie les personnages. Oreste aime Hermione qui ne l'aime pas, Hermione aime Pyrrhus qui ne l'aime pas, Pyrrhus aime Andromaque qui ne l'aime pas, Andromaque aime Hector qui est mort, vous voyez. Il y a là ce que l'on appelle la loi d'attraction-répulsion. Par parenthèse, j'ai étudié aussi tout cela dans un autre livre qui est paru chez Dervy, qui s'appelle « Méandre de l'amour, Eros et Agapé », où je me suis appliqué justement à décortiquer, à analyser comment fonctionne le désir, « Méandre de l'amour ». Alors, cette loi d'attraction-répulsion nous montre que nous sommes plus près d'aimer qui ne nous aime pas que qui nous aime, ou bien celui qui est loin de nous que celui qui est près de nous. La femme, disait Musset, est comme notre ombre, Quand on la fuit, elle nous poursuit, et quand on court après elle, elle nous fuit. Alors comment mieux exprimer que le désir véritable se nourrit d'absence ? On est mieux avec quelqu'un quand il n'est pas là que quand il est là. On est en pensée, en rêve, en imagination auprès de lui. Et s'il est là, sa présence est un obstacle à tout cela. Sa présence est un obstacle, par exemple, à ce que Stendhal, dans De l'amour, appelle la cristallisation. Regardez ce que dit Hippolyte Aricide dans Phèdre de Racine. « Présente, je vous fuis, absente, je vous trouve. » C'est-à-dire, quand vous êtes présente, eh bien, je m'en vais, je vous fuis. Quand vous êtes absente, je suis véritablement avec vous. Sur ce phénomène, Sacha Guitry a eu un très joli mot. Il disait « Comme vous étiez jolie hier soir au téléphone », vous voyez, hein ? C'est-à-dire qu'on ne la voit pas, hein. Et alors aujourd'hui, je pense à tous les systèmes visuels, Skype ou autres, qui permettent de voir le correspondant. Je pense que ce sont des tu fantasmes, peut-être des tu l'amour, hein. Voir quelqu'un n'est pas forcément la meilleure façon de rêver à lui, hein. Donc, le désir est fait ou bien d'attente ou bien de souvenir. C'est le désir de quelque chose que l'on n'a pas encore ou le regret de quelque chose que l'on n'a plus. Le mot latin « desiderium » est rattaché à « desiderare ». Il y a dedans le mot « sidus » qui veut dire « l'étoile ». Hein. Lorsque l'on a vu l'étoile une fois, « sidus hein, », d'où « sidéral », etc., on a connu la sidération. Mais ensuite, eh bien, l'étoile a disparu. Donc on est dans le « desiderium », c'est-à-dire le regret de l'étoile. Le désir, « desiderium » a donné « désir », et aussi le regret de l'étoile, vous voyez. Donc le désir, c'est une forme essentielle du temps. Il est fondamentalement ce qui nous arrache au présent. Et pour revenir au thème de mon livre et de cette série d'émissions, la culture, précisément, vit de futur. Hein. Toute culture est perspective, disait Paul Valéry. Donc, ce qui nous arrache au présent. Voici par exemple comment Lucrèce, dans le De Rerum Natura, hein, au chant 3, exprime la chose. Hein. « Seulement, tant que demeure éloigné l'objet de nos désirs, il nous semble supérieur à tout le reste. Une fois qu'il est à nous, nous désirons autre chose, et la même soif de la vie nous tient toujours en haleine, vous voyez. Duma bes quoda vemus, id exuperare, videtur cetera. C'est-à-dire, tant que est absent ce que nous désirons, cette chose-là nous paraît surpasser tout le reste. Hein. Mais ensuite, lorsque nous avons obtenu cette chose, eh bien, nous en désirons une autre. Aliud Awemus, comme dit Lucrèce. Voilà. Alors, cette insatisfaction, l'imaginaire qui s'en nourrit, c'est l'essentiel, je le répète, de la transcendance. Et cet arrachement au présent lie donc étroitement le désir au processus même de culture, qui est le remplacement des choses réelles par des substituts de ces choses, au premier chef dans le langage, les mots, etc., qui nous les rendent, ces substituts nous rendent les choses beaucoup plus agréables, vous voyez. Il y a donc ici un paradoxe qu'il faudrait défendre. Le désir, bien sûr, on le dit, cherche la possession, mais au fond, toute possession est fatale au désir. Proust disait « Le désir fleurit, la possession flétrit toute chose hein. ». L'absence est toujours, il me semble, préférable à la présence et l'attente à la possession. Et le proverbe dit « Les absents ont toujours tort ». Mais on peut le discuter, on peut dire au contraire que les absents ont toujours raison, vous voyez. Un humoriste disait que le meilleur moment en amour, c'est quand on monte l'escalier. Andy Warhol prétendait de même que l'amour est meilleur dans les rêves que dans les draps. Vous voyez, nous entamons l'été maintenant. Le plus beau, c'est le début de l'été. Ça ne sera pas le cœur de l'été. Hein. La tristesse des jours d'été, dit Flaubert dans Bouvard et Pécuchet, au tout début, hein, dans le premier paragraphe du premier chapitre, me semble-t-il. Hein. Pourquoi ? Parce que ce qui est beau, c'est quand quelque chose commence. Qui ne voit que la vraie fête, hein. C'est la veille de la fête. Le vrai dimanche, c'est le samedi soir. Et les vraies vacances, que je vous souhaite bonne maintenant, hein. C'est le jour où l'on prend les vacances. Le lendemain, ce n'est plus pareil. Je pense à ce que dit Rodrigue dans Le soulier de satin de Claudel. On demande à Rodrigue pourquoi il aime Prouèse et Rodrigue répond « Si je le savais, je ne le lui demanderais pas ». Et voici la profession de foi de Rodrigue qui est une définition parfaite de la transcendance humaine qui est éprouvée et figurée dans le désir. Cette absence essentielle, oui ma chérie, et même quand vous étiez vivante, et que je vous possédais entre mes bras, en cette étreinte qui tarit l'espoir, qui sait si elle était autre chose qu'un commencement et apprentissage de ce besoin sans fond et sans espoir à quoi je suis prédestiné, pur et sans contrepartie. Alors j'espère que vous ne trouverez pas ces paroles trop pessimistes. Hein. En fait, elles sont imprégnées sûrement d'idéalisme. Personnellement, je sens très fort que le deuxième jour est inférieur en qualité au jour 1 ou au jour de l'unité. Et là, je fais référence au récit de la Genèse, hein, de la fameuse création du monde, qui n'est qu'une organisation du monde, la mise en ordre d'un chaos par l'esprit humain. Hein. Eh bien, il y a d'abord un jour qui était le jour de l'unité, hein, Yom Erad, le jour 1. Hein, et ensuite, il y a la série, deuxième, troisième jour. Et alors, au jour 1, jour de l'unité, Dieu s'autofélicite, tout cela est bon. Hein, mais au deuxième jour, hein, alors il n'y a pas d'autofélicitation de Dieu dans la version hébraïque. Je sais bien que la Septante la met, cette autofélicitation, mais dans la version juive, dans la Bible hébraïque actuelle, l'autofélicitation de Dieu n'apparaît pas au deuxième jour. Elle reprend bien sûr au troisième, voyez. Donc ça doit nous faire réfléchir, hein, sur le moins-être qu'il y a dans toute réalisation. Alors pour résumer tout cela, je dirais que ce que je décris maintenant nous montre comment le désir structure l'âme humaine et comment les grandes cultures humaines prennent en compte cette réalité anthropologique. Mais au contraire, aujourd'hui, nous en sommes loin, hein, puisque la désublimation est telle qu'il n'y a plus que des besoins et le désir en a disparu. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter quand même un très bon été, hein, et je vous retrouverai à la rentrée, à l'automne, pour continuer cette enquête sur désublimation et unidimensionnalité, vous voyez. Donc nous parlerons de la rhétorique, du rôle du langage. Voilà, chers auditeurs, bonnes vacances, à très bientôt, à l'automne prochain. Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.